Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Reset ton assiette. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nina et on va parler de la famille, de l'impact de la famille en fait sur le développement d'une alimentation troublée, des TCA, etc. Et notamment le rôle de la famille, etc. dans tout ça. Donc bienvenue Nina, salut.
Salut Juliette.
Comment tu vas?
Ça va, je suis un peu stressée parce que comme je te disais, c'est un podcast qui me tient fort à cœur, donc j'espère pouvoir amener de la qualité. Mais je suis super contente d'être là, franchement.
Bah oui, bah en plus, c'est dingue, c'est que ça faisait un moment que le thème de la famille, c'était quelque chose que je voulais explorer dans un épisode. Et je me suis dit, faudrait que je fasse venir quelqu'un qui est spécialisé sur ça, etc. Et donc, quand on en a parlé ensemble, logiquement, je me suis dit, mais oui, carrément, on peut faire cet épisode ensemble.
Mais moi, à chaque fois que j'écoute tes podcasts, je me dis, il faut vraiment faire un épisode sur le transgénérationnel, sur les transmissions du rapport à l'alimentation et au corps. Donc, j'avais trop envie de faire ça, donc je suis trop contente.
Bah d'ailleurs, Nina, est-ce que tu peux te présenter peut-être à mon audience?
Donc, moi, je suis psychologue et psychothérapeute d'orientation systémique, pour ceux qui voient ce que c'est. Et j'ai, entre autres, un intérêt très accru pour les troubles alimentaires, le rapport au corps et à l'alimentation. Entre autres, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et que je m'y retrouvais absolument pas dans tout ce que je voyais à l'université parce que c'était hyper spécifique et sur des cas très extrêmes et donc je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Aussi, quand j'ai essayé d'aller en thérapie, j'ai pas trouvé de réponse qui me parlait et donc je me suis beaucoup intéressée à tout ça et je suis très contente de voir toutes les nouvelles vagues entre guillemets de thérapie qui viennent pour soigner ces troubles-là. Je trouve qu'on a vraiment une meilleure compréhension aujourd'hui. Enfin voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose à quoi je me suis formée au travers entre autres de l'alimentation intuitive, même si je suis pas formée à l'alimentation intuitive. J'ai aussi Autopsie, mon compte Instagram. Et je sais pas comment dire, une chaîne YouTube qui n'est plus alimentée depuis bien un an. Peut-être le sera de nouveau un jour. Et j'en parle d'alimentation et du rapport au corps sur mes comptes. Donc, si ça intéresse les gens, ils peuvent aussi me suivre par là.
Ok, super. Du coup, là, je voulais discuter avec toi. Donc, ça va être... Il y a énormément de questions à te poser, hein, ça c'est clair. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être... Quel impact peut avoir la famille sur notre comportement alimentaire, mais aussi notre image corporelle en fait.
Je pense que une des premières choses, c'est que on a tendance à faire du mimétisme dans nos familles. Donc en fait, ça s'appelle l'apprentissage vicariant. Et donc ça veut dire qu'on apprend en voyant les autres faire. On n'a pas nécessairement besoin d'apprendre comme on fait à l'école où on répète, etc. Consciemment. On apprend les choses en voyant les autres faire. Et donc si on voit nos parents, nos proches avoir des comportements ou un rapport à l'alimentation, je veux dire troublé au sens large, c'est quelque chose qu'on va apprendre. Même s'ils nous le disent pas directement, même si ma mère m'a jamais dit c'est mal de manger de la glace, mais je l'ai toujours vu ne pas en prendre. C'est des choses que j'intègre en fait sans avoir besoin qu'on me l'explique typiquement. Et donc c'est une forme d'apprentissage entre guillemets indirect, une forme de mimétisme. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base. Et puis après, t'as aussi tout ce qui est rituels familiaux. Et comme on est des humains, les rituels passent beaucoup par la nourriture. Donc par exemple, les mariages, les anniversaires, il y a toujours de la nourriture quelque part. Ouais. Et donc, le fait, il y a beaucoup de familles qui vont avoir des rituels autour de la nourriture, comme tout simplement le fait de manger ensemble en famille le soir, ou le fait de pas manger ensemble. Enfin, il y a plein de choses qui passent par là. Est-ce qu'on cuisine ensemble? Est-ce que c'est maman qui cuisine? Comment est-ce que tout ça s'organise? Et donc, c'est aussi des lieux où on apprend qu'est-ce qu'on a le droit de manger, comment est-ce qu'on le mange, en quelle quantité, est-ce qu'on mange devant les autres ou pas. Donc il y a plein de règles qui sont transmises consciemment ou inconsciemment par les parents. En tout cas au début quand on est petit et puis petit à petit ça change, mais les parents sont quand même les garants que les rituels se passent bien. C'est les parents qui disent non, tu viens manger à table, tu ne restes pas dans ta chambre. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui se transmet à ce niveau-là. Et c'est des rituels qui sont fort chargés émotionnellement, en fait, pour les humains. Si la première fois où l'ado vient pas manger à table, bah en fait, ça fait quelque chose aux parents, quoi. Émotionnellement, c'est pas anodin. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas des événements qui passent inaperçus. Mmh. Donc là, je pense que c'est important aussi de réaliser que c'est vraiment l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie des familles et qu'on transmet énormément de choses au travers de ça, énormément de nos valeurs aussi. Par exemple, manger sain, faire du sport, ça peut être des valeurs, la santé, que certaines familles peuvent avoir. Et donc, il y a beaucoup de valeurs qui vont passer par là. Mais aussi, pour d'autres familles, le fait de pas trop se préoccuper de ce qu'on mange ou de pas trop investir dans la nourriture. Donc, ça peut aussi être dans l'autre sens. Ou de plaisir via des gâteaux, les desserts, etc. Ou les frites, ou enfin, je sais pas. Chacun fait plaisir sur des choses différentes, mais...
Ouais, ou même les aliments interdits. Moi, je vois ça aussi souvent en accompagnement. Des fois, il y a des familles, c'est genre, ils avaient aucun produit sucré parce que la mère ou le père, etc., estimaient que, il n'y en aura pas.
C'est ça, il y a plein de croyances. Il y a plein de croyances qui sont transmises. Alors, où est-ce que eux-mêmes, les parents, ils ont été trouvés ça? Probablement de leurs propres parents, parfois aussi de l'extérieur. Je veux dire, on sait l'impact que la politique a sur nos manières de nous alimenter. Mais parfois, c'est des événements aussi... Je sais pas si tu vois ça chez tes clientes, mais l'impact des guerres et des famines, des diètes... sur nos grands-parents, je veux dire ici du côté occidental. J'entends plein de gens qui me disent « Tu sens que ma grand-mère, elle a vécu la guerre, quoi. »
Ouais, moi aussi.
La nourriture.
Ouais, mes grands-parents aussi, ils ont vécu la guerre aussi. C'est sûr que ma mère, je sais qu'elle a été pas mal influencée par sa propre mère. Il faut finir son assiette, la bouffe, c'est... attention, quoi, c'est une denrée rare où il faut vraiment en profiter quand il y en a, etc. Exactement. Et donc, c'est sûr qu'après, ça te reste aussi, quoi.
Tu dis pas non à quelque chose de sucré, tu dis pas non, tu finis ton assiette d'office parce que tu sais pas quand est-ce que tu auras de nouveau de la nourriture. Donc parfois ça peut être des choses, entre guillemets, de l'ordre du trauma, dans le sens que c'est quelque chose de grave qui est resté là, qui a pas pu être soigné, traité. Et du coup, en fait, quand ta grand-mère te dit finis ton assiette, tu sais pas, sous-entendu, tu sais pas quand est-ce que tu remangeras, en fait elle fait ça pour prendre soin de toi. Ouais. Mais même si toi à ce moment-là tu le sens comme on me gave, on m'oblige à manger. Et dans l'autre sens, je pense peut-être plutôt les mamans, par rapport à nos âges, elles vous ont appris encore autre chose. Enfin, elles devaient probablement être entre les deux, d'ailleurs, avec une mère qui disait qu'il fallait absolument manger, et la société qui disait qu'il fallait absolument être très mince. Hein.
Ouais.
Dans les années 80, les années 90, c'était quand même assez violent. De nouveau, c'est une transmission qui est de l'ordre de comment est-ce que tu peux prendre soin de toi, comment est-ce que tu peux te protéger, comment est-ce que tu peux être intégré dans la société. C'est même pas négatif spécialement, mais je pense que nos mamans, quand elles nous disaient de faire Weight Watchers, c'était pas mal intentionné en soi. C'était
ça.
Pour prendre soin.
Oui, carrément, oui. C'est vrai qu'il y a toujours cette dimension de se dire que, au final, si notre famille, des fois, a voulu influencer notre alimentation ou même notre poids, etc., c'était souvent dans un contexte de protection plutôt, tu vois.
Exactement.
De self-care, de care plutôt dans ce sens-là que forcément à mal, en fait.
C'est ça. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense, avec tout ce qui est bio, avec tout ce qui est pas d'alimentation industrielle, je pense que nous aussi, parfois, on peut tomber là-dedans avec nos enfants. On a envie de leur transmettre quelque chose en soi de bon. On a envie de leur transmettre un chouette rapport à la nourriture. Comme on n'apprend pas aux enfants, en fait, peu importe l'intention derrière, ce qui se passe, c'est qu'on n'apprend pas aux enfants à partir de leurs sensations physiques. En fait, est-ce que t'as encore faim? Est-ce que t'as encore envie? Est-ce que ça te fait plaisir? Tu sais, on va aussi manger ça dans quelques minutes. Est-ce que t'as envie vraiment de manger ça maintenant alors que t'aimes bien le plat qu'on va manger après? Donc, on part pas à partir des sensations des enfants.
Ouais.
On part à partir de règles qui sont intellectualisées, en fait, qui sont extérieures à l'enfant, on prend pas de sneakers avant le repas, ou il faut finir son assiette, ou on mange pas de produits industriels. C'est des règles extérieures que tu sens pas dans ton corps, parce que en soi, il y a des gens, ils supportent pas physiquement les produits industriels, du coup, ils en mangent pas, mais c'est leur sensation.
Ouais.
On part pas d'un truc extérieur qui leur est imposé.
Ouais, carrément.
Et donc, je pense que dans les familles, c'est ça la difficulté principale. On n'arrive pas à apprendre aux enfants de ressentir, en fait.
Ouais, moi, je suis bien d'accord avec toi. Bah, c'est sûr que, du coup, là aussi, ça a un impact un peu sur notre propre connexion à notre corps, en fait, quand on est enfant, parce que, bah, voilà, si on est une famille qui nous invite à sans cesse un peu nous déconnecter d'une certaine manière et intellectualiser beaucoup ce qu'on mange, mentaliser ce qu'on mange, etc., et pas vraiment s'écouter, de pas être connecté à notre capacité de mangeur intuitif qu'on a quand on est enfant. Il y a rien que ça aussi, ça peut, ben, c'est des choses que adultes on peut aussi garder d'une certaine manière, quoi.
Tout à fait, parce que quand tu vois les enfants, en fait, ils savent s'arrêter à la bouchée près, quoi.
Ouais.
T'as des parents qui disent oui, mais juste après il va demander un dessert. Mm. Bah ok, mais après tu peux accompagner là-dedans, t'es pas obligé d'interdire de manière aller avec une règle qui vient de l'extérieur.
Ouais, donc du coup l'impact est multiple, j'ai envie de dire. Il y a tout ce qui est mimétisation, comme tu disais, il y a tout ce qui est ritualisation, et puis il y a toutes les règles aussi, les traumas dans les générations, etc., qui c'est peuvent revenir.
Il y avait une autre chose à laquelle je pensais aussi, c'est que quand t'as une famille qui vit du stress, maintenant, peu importe ce qui fait qu'il y a du stress, ça peut être quelque chose d'extérieur, ça peut être parce que t'as un parent violent ou un parent inadéquat, mais ça peut aussi être parce que, je sais pas, on a perdu un proche et du coup, bah, la famille traverse une crise et donc il y a du stress, c'est pas très agréable. Mais en tant qu'enfant, en tant qu'ado, le corps peut devenir un lieu où on a l'impression de contrôler aussi.
Ouais.
Et donc, ça peut être un lieu où, du coup, bah, si j'ai l'impression que je contrôle pas ce qui se passe dans ma famille parce que y a trop de choses chaotiques, stressantes, imprévisibles, etc., je vais essayer d'avoir du contrôle à un endroit. Et donc, on peut avoir une espèce d'illusion de contrôle parce que c'est jamais que des illusions, des impressions de contrôle. Et donc, je pense que voilà, que ce soit d'ailleurs au niveau anorexique, au niveau plus boulimique, hyperphagique, ça tout passe par du contrôle, comme tu l'expliques super bien dans tes épisodes. Et donc, je pense que là aussi, ça peut jouer quand même d'avoir une famille qui traverse des crises.
Ouais, c'est clair, oui. Puis si on est dans un environnement, stressant ou un peu dysfonctionnel aussi, d'une certaine manière, bah, ça peut aussi nous donner envie de contrôler notre alimentation, de décharger un peu ce stress aussi ailleurs, etc. Quoi.
Après, ça peut aussi être l'école, c'est pas toujours la famille, mais en tout cas, il y a cet aspect de contrôle, je pense, qui est pas négligeable.
Ouais, donc ça, c'est tout ce qui est comportement alimentaire. Et ensuite, tu dirais, par rapport à l'image corporelle, quel impact aussi on peut voir, à moins que c'est un peu les mêmes ressorts, peut-être aussi de mimétisation, etc.
Mais je pense que de toute façon, on a toutes un souvenir de notre mère ou de notre père qui se fait lui-même une remarque sur son corps.
Ouais.
Et donc on apprend, en fait, qu'il y a quelque chose à contrôler, à juger, à évaluer. Sur le corps, ou bien, tu sais, dans les réunions familiales, quand les gens sont pas vus depuis longtemps, enfin, je sais pas comment c'est chez toi, mais chez moi, donc je suis d'origine iranienne, et on dirait que les Iraniens ont des balances intégrées comme ça, tu vois, et ils te voient et ils savent te dire exactement combien t'as pris de kilos ou combien t'en as perdu, et c'est littéralement la première chose qu'ils te disent.
Ouais.
Et donc, alors, je sais pas, j'imagine que quelque part, ça doit être bien intentionné, j'ai du mal à imaginer que les gens sont profondément méchants, mais le truc, c'est que tu normalises, tu banalises le fait de contrôler le corps.
Ouais, carrément.
Avec cette idée que tu peux contrôler le corps.
Ouais. Oui, puis c'est ta responsabilité aussi, tu vois, c'est ta volonté, ta responsabilité, et en plus, voilà, on peut t'encenser si tu reviens dans une réunion de famille ou une fête de famille, etc., que t'es plus mince, on va t'encenser en disant « Ouais, bravo, comment t'as fait, etc. » Ou bien « Ah, tu vas mieux, limite, on va associer minceur au bien-être mental, etc. » Et puis l'inverse aussi, si on est plus gros, c'est sûr, c'est genre... Soit c'est dit frontalement, ou soit ça va être un peu murmuré, ou un peu insinué, etc., quoi. Donc, oui, mais ça, je pense que dans énormément de familles, il y a ça, enfin... Moi, pour le coup, mes clientes, elles m'en parlent souvent de leur famille que, y a même une angoisse, en fait, à revoir sa famille, parce qu'on se dit, OK, je vais être scannée et je vais me prendre des remarques et c'est saoulant, en fait.
Mais c'est terrible parce que, même si c'est pas l'intention des gens, enfin, j'espère que c'est pas leur intention, ça te donne l'impression que tu dois être d'une certaine manière pour pouvoir être appréciée, intégrée, accueillie, enfin, je sais pas.
C'est clair.
Alors que, le corps, c'est quand même pas un truc qu'on contrôle à 100%, donc.
Bien sûr.
Ça veut dire que c'est presque comme si t'avais quelque chose où t'attends une sorte d'accueil et de présence inconditionnelle de ta famille, mais que t'as l'impression qu'il y a une condition qui est que tu dois être d'une certaine forme.
Mais carrément. Ouais, c'est comme, tu vois, tout ce qui est peur de grossir, quand on creuse, il y a beaucoup cette peur de être rejeté, en fait, par sa famille, par son conjoint, sa conjointe, etc. Exactement. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même latent. Quand on va dans toutes les dimensions de la peur de grossir, qui n'est pas juste prendre du poids, mais qui est surtout l'impact de cette prise de poids et comment ça va être perçu par les autres, notamment notre propre famille, malheureusement.
Et donc ça rejoint, c'est intéressant, ça rejoint ce que je voulais te dire aussi par rapport, tu me disais, par rapport au rapport au corps.
Ouais.
Dans les familles, c'est aussi que le corps, c'est très souvent ce qui nous lie quelque part à notre famille implicitement.
Bah oui.
Tu sais, il y a plein de gens qui disent je ressemble à mon père, je ressemble à ma mère, ou je suis le typique mélange, ou je ressemble à ma grand-mère. Ou enfin, un jour, j'ai une de mes tantes qui m'a dit ah, tu vois, t'as les hanches de la famille, tu vois. Mm-hmm. Et donc, t'as un truc comme ça où t'as le nez de la famille. Enfin, c'est des trucs qu'on entend beaucoup. Et du coup, ben, dans ce cadre-là, moi, j'ai quand même beaucoup de patientes qui me disent mais en fait, moi, j'ai même pas le droit. Enfin, une fois qu'on commence à conscientiser, j'ai pas le droit d'être grosse parce que toutes les femmes de ma famille sont minces. Et donc, c'est presque comme si si je grossissais, en fait, j'étais plus une femme de la famille. Il y a un truc absurde, hein, bien sûr, qu'une fois qu'on le conscientise, on réalise que c'est absurde et que notre mère, elle va pas nous rejeter. Et encore, il y a peut-être des exceptions. C'est ça, exactement. Mais il y a un truc où tu as intégré que les femmes de notre famille, elles sont minces et donc tu es mince aussi.
Oui, c'est ça. Ouais, j'ai déjà des clientes qui m'ont confié ce côté, tu vois, d'être la grosse de la famille, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est là où je voulais te parler de différenciation. C'est que comme il y a quelque chose de ton appartenance à la famille qui passe au travers du corps, aussi hein, par rapport à la nourriture, on est une famille qui mange sainement, on est une famille qui s'en fiche, on est une famille qui, je sais pas, se met jusque-là tous les deux. Enfin, il y a plein de choses, mais comme l'appartenance à la famille passe beaucoup par le rapport au corps et à l'alimentation, mais parfois, pour se différencier, se sentir un individu qui existe à part entière au reste des membres de la famille, ça veut pas dire se distancer, ça veut pas dire se séparer, ça veut juste dire que bah, on commence à sentir qu'on est un individu qui existe même en dehors de la famille, quoi, tout en étant attaché à la famille. Pour se différencier, il y a beaucoup de personnes qui vont passer par le corps. Et je pense comme ça à des patientes qui peuvent m'expliquer que toute leur famille ont des TCA, où ils vont se faire vomir, où ils vont se restreindre, et où bah, eux, justement, enfin elles, vont au contraire faire plutôt de l'hyperphagie, plutôt de la boulimie hyperphagique, pour être différent en fait. Et, ou l'inverse, se restreindre là où c'est des familles où on a appris à pas se restreindre, à pas s'écouter.
Oui, c'est un peu ce côté rébellion. Donc soit bah, si c'était une famille qui se restreignait plus, bah, ça va être de manger plus en fait. Notamment quand il y a des remarques sur le corps, moi je vois ça aussi des fois, il y a des personnes qui vont, tu vois, qu'on les a tellement restreints, etc. Ou on leur a tellement dit des remarques en mode ne grossis pas, etc. Que limite ils vont manger deux fois plus en mode ah bah tu vois, allez moi je me resserre, allez qu'est-ce que tu dis de ça, etc. Il y a un peu ce côté-là.
Une part rebelle comme ça, et t'as beaucoup de personnes quand elles commencent à travailler sur l'aspect psychologique de qu'est-ce qui fait que du rapport au corps et à la nourriture en particulier, qui vont te dire mais en fait j'ai une pulsion, une espèce d'impulsion rebelle en fait.
C'est ça.
Où j'ai envie de manger parce que j'ai le droit ou parce que c'est comme ça et je fais quand même que ce que je veux. Et alors que bon, tu sens qu'il n'y a pas tellement de choix non plus là-dedans. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas apaisé et pas serein, mais qui est réactionnel à autre chose.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, on parle de la famille, mais on voit ça aussi en alimentation intuitive, le côté rebelle des régimes, on appelle ça cette voie-là.
Mm-hmm. Exactement, ouais, c'est ça. Rebelle des régimes.
En parlant de différencier, moi, je vois aussi, par exemple, j'ai des clientes donc, qui, par moment, en fait, donc, ont été restreintes dans le cercle familial. Tu vois, et après donc elles partent de ce cocon familial, de ce cercle, et ensuite elles ont tendance à tu vois à remanger un peu tout ce qu'elles avaient comme aliments interdits, etc. Et genre les règles qu'elles avaient dans leur famille, c'est vraiment voilà rebelle un peu dans ce sens-là.
Mais c'est rebelle, mais je pense que c'est aussi comme tu l'expliques super bien, la compulsion qui vient après la restriction.
C'est clair.
On a quand même beaucoup de crises hyperphagiques qui se passent quand il y a plus personne dans la maison ou quand t'es tout seul. Ou en cachette, ou à l'abri des regards, avec ce côté, ou dans la voiture aussi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est dans la voiture qu'elles mangent, et donc je pense que le jour où tu pars de ta famille, ben, t'es un peu libérée de ce regard, il y a un truc compulsif qui peut se faire aussi à cet endroit-là.
Oui, carrément. C'est vrai qu'il y a les effets aussi de la restriction, d'une certaine manière, qu'elle soit cognitive, etc., qui était là, et qui du coup, ben, on l'ajoute un peu du lest, et du coup, oui, on a tendance à plus manger.
En dehors du côté compulsif, je pense que le fait de, ben voilà, tu pars de ta famille, tu crées ta propre famille ou ta propre vie. En tout cas, quand je dis famille, c'est pas nécessairement des enfants ou quoi, mais tu crées ta propre bulle, ta propre maison, ton propre foyer. Et du coup, ben, c'est un processus plutôt sain, plutôt naturel. Commencer à faire à ta sauce, quoi, de faire avec la manière dont toi, t'as envie de faire. Donc, je pense que le processus est sain, mais qui se met à un endroit qui fait vivre de la souffrance plutôt.
Ouais.
Parce qu'il y a un côté compulsif. Mais je pense que le processus, il est plutôt chouette.
C'est, oui, c'est
quelque chose qu'on fait sur plein d'autres choses, d'ailleurs.
Ouais, c'est comme l'émancipation, même niveau vestimentaire, niveau plein de choses.
Oui, c'est ça.
Qu'on prend un autre style ou ce genre de choses. Enfin, ouais, il y a tellement d'aspects sur lesquels peut-être notre famille nous a, d'une certaine manière, contraints, influencés, etc. Et qu'après, on redécouvre ou qu'on fait à notre sauce, comme tu dis, bah, en dehors et que, bah, enfin, être nous-mêmes pleinement, on va dire.
Parce que souvent, alors c'est un processus qui commence quand même à l'adolescence, bien sûr. Bah, la différenciation dont je parlais, ça commence à l'adolescence. C'est le moment où tu commences à dire, bah, en fait, j'existe en dehors de ma famille, etc. Mais le moment où tu pars de ta famille, c'est très symbolique par rapport à ça. Et donc, c'est souvent aux alentours de la vingtaine, début de vingtaine ou fin de vingtaine, qu'on s'en va, au début de trentaine, quoi, dans ces eaux-là. Et donc, souvent, on voit quand même beaucoup de questions identitaires qui émergent à ce moment-là, du style, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que, vers où je vais. Enfin, c'est pas une, la vingtaine, c'est pas très agréable à vivre. Il y a un gros tri qui se fait en fait à ce moment-là, peut paraître un peu chaotique, où tu vas te dire, ok, mes parents, ils m'ont donné tout ça, avec des chouettes choses et des choses moins chouettes, faut que je fasse du tri dedans.
Ouais, c'est ça.
Des choses que je vais prendre, et puis il y a des choses que je vais leur rendre, et puis il y a des choses que je vais jeter, et puis il y a des choses que peut-être je vais recycler. Puis les choses que je prends, est-ce que j'ai envie, tu sais, de les mettre dans mon salon, ou est-ce que je les mets au grenier, ou est-ce que je les mets dans un tiroir, enfin. Et donc, il y a tout ce tri qui se fait, mais il se fait aussi au niveau du rapport à l'alimentation. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que quand on part de sa, de sa famille, quand on s'installe soi, bah, ce tri se fait aussi là, et donc on se dit, ok, ma mère, elle m'a transmis, parce que c'est souvent les mères qui sont garantes de ça, même si les pères sont pas loin derrière. Hein. On est des femmes, au fond, on nous apprend garantes de beaucoup de choses.
Oui, c'est vrai. C'est partout.
Mais bon, il y a des pères qui sont hyper stricts. Moi, j'ai quand même quelques patientes qui ont des pères qui sont hyper forts derrière elles, donc c'est vraiment pas exceptionnel non plus. Mais voilà, tes parents, ils t'ont appris à faire ça par rapport à la nourriture, bah ok. Qu'est-ce que j'ai envie de garder de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de leur rendre parce que ça leur appartient? Parce que c'était leur génération, comme on disait pour les grands-mères. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser à ma grand-mère? Moi, ce que je dis souvent, parce que là, on parle de grand-mère, mais j'ai quand même des patientes. Elles, pour elles, c'est leur mère. Donc, je leur dis, mais votre mère, elle a quand même réussi à vous offrir une vie dans laquelle vous n'aviez pas à vous poser la question du manque. Il y a cette notion d'abondance que je pense qu'on aborde en alimentation intuitive, si j'ai pas de bêtises. Peut-être on peut lui rendre, peut-être vous pouvez lui rendre ça. Peut-être ça lui appartient à elle, à sa génération, à sa vie, et elle a réussi à vous offrir une vie dans laquelle vous n'avez pas à vous poser ces questions-là. Et donc peut-être vous pouvez prendre autre chose de ça, comme comment est-ce que je peux prendre soin de mes enfants, ou de comment est-ce que je peux être sûre de continuer à entretenir ce qu'elle m'a offert comme sécurité pour ne pas manquer, ou des choses comme ça. Mais donc qu'est-ce que je garde de ça et qu'est-ce que je lui rends en fait.
Moi, j'aime bien cette notion de un peu de choisir au final, nous, ce qu'on garde, ce qu'on conserve, on laisse un peu comme empreinte, on va dire, sur notre rapport à l'alimentation, etc., quoi, et qu'on choisit. Mais c'est vrai que, enfin, moi, tu vois, par rapport au TCA, je sais que donc qu'il y a quand même, enfin, on parle beaucoup du fait que voilà, il y a bien sûr les des régimes, etc., qui peut nous provoquer ces troubles du comportement alimentaire, etc., c'est les régimes, tout ça, tout ça. Et après aussi, il y a une part qui est liée à d'autres choses, type trauma, etc., mais il y a aussi beaucoup le côté génétique et héréditaire aussi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, du coup, vu que ton approche, elle est quand même plutôt sur la famille, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux observer
Mais en fait, en psycho, on va toujours se poser la question du génétique, peu importe le trouble, ce que je pense que c'est quand même indispensable, hein, parce que notre esprit est dans notre corps, enfin notre cerveau c'est notre corps, donc bien sûr qu'il est hyper imprégné de génétique et bon, qu'on parle de rapport au corps, mais grossir, maigrir, tout ça, bah c'est dans le corps, donc il y a bien sûr un aspect génétique à pas nier. Et en même temps, typiquement, c'est très clair que les gènes ont un impact, mais que l'environnement aussi a un impact. Et donc, comme je te disais, même ta couleur de cheveux, elle est génétiquement programmée, mais l'environnement dans lequel tu es va avoir un impact. Il y a plein de femmes qui ont les cheveux blonds, là, on les entend toujours dire, je sais pas si t'es blonde, mais je pense pas, mais on les entend toujours dire qu'elles ont les cheveux plus clairs en été, les cheveux plus foncés en hiver ou un truc comme ça.
Ouais.
Mais c'est ça, en fait, l'environnement a un énorme impact. Et donc, si tu es peut-être, parce que c'est vraiment des études toutes neuves, hein. C'est très très récent, les études sur les TCA et la génétique.
Ouais, carrément, c'est vrai que c'est encore récent.
Et beaucoup de peut-être, mais admettons que peut-être il y a une influence génétique sur les TCA. Faut pas oublier que si on est dans un environnement sain, ces gènes vont pas s'exprimer, ou pas s'exprimer de la même manière que si on est dans un environnement qui accentue, qui invite à ça. Donc ça, c'est quand même super important. On le voit avec d'autres troubles qui ont été étudiés depuis beaucoup plus longtemps, la psychose par exemple, où on sait qu'il y a des gens qui peuvent avoir, et de nouveau c'est à mettre avec des pincettes, mais une sorte de prédisposition génétique, et c'est jamais un seul gène, hein, c'est beaucoup de gènes ensemble. S'ils sont dans un environnement sain, en fait ça s'exprime jamais.
Ouais, un peu moins fataliste, dans le sens que si on a un TCA dans notre famille, enfin quelqu'un qui a notamment notre mère ou notre grand-mère ou j'en sais rien, et ben que nous, peut-être qu'on va avoir une partie génétique liée à ça, mais qui va pas forcément s'exprimer, ou que voilà, on va pas forcément être condamné à avoir un TCA, ou ce genre de choses.
D'ailleurs, tu le vois avec les frères et sœurs, hein, celles qui ont autour des TCA, leurs frères et sœurs n'en ont pas nécessairement. C'est vraiment plurifactoriel et c'est l'environnement clair. Joue énormément.
Ouais, bah oui, c'est sûr. J'aime bien cette approche quand même parce que je trouve qu'elle est plus rassurante pour la plupart des gens parce que si on se dit ovinaise, ou se dire que voilà, quand même, même si on a connu ça, même nous-mêmes, par exemple. Parce que je sais qu'il y a quand même aussi cette angoisse que je peux sentir chez certaines clientes aussi, tu vois, par rapport à leur propre progéniture, j'ai envie de dire. Ben c'est ce côté, est-ce que je vais lui transmettre mon TCA, mes TCA, est-ce que je vais lui transmettre mon rapport alimentation troublée, etc.
Mais il ne faut quand même pas oublier que les TCA, quels qu'ils soient, ça reste avant tout des difficultés mentales.
Ouais.
Alors ça a un impact sur ton corps bien sûr parce que tu te restreins ou dans l'autre sens tu compulses, mais ça reste que c'est avant tout c'est cognitif, c'est des restrictions mentales, c'est des croyances, qui ont après un impact sur le comportement et sur le corps.
Ouais.
Et ça bien sûr que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler et qu'on du coup on peut ne pas transmettre.
Ouais.
Mais je pense aussi qu'il faut pas paniquer hein. À partir du moment où on se pose cette question, où on se dit OK, qu'est-ce que je veux transmettre ou pas, où on le conscientise, je pense que on est déjà bien parti.
Oui, c'est vrai.
En fait, à partir du moment où on peut se remettre en question, moi je sais que ma mère qui a été vraiment élevée dans la culture des régimes, 50 fois plus fort que moi, presque, j'ai l'impression, parfois. Parce que, contrairement à moi, moi, aux alentours de 30 ans, j'ai découvert l'alimentation intuitive. Elle, non, on voit ce que
c'est vrai.
Donc, toute son adolescence, toute sa vie adulte, on lui a rabâché les oreilles qu'elle devait être mince pour valoir quelque chose. Elle a pu un moment me dire « je suis vraiment désolée, en fait ». Et tu sais, ça répare quelque chose, ça soigne quelque chose. Quand tes parents te disent « je me suis plantée, je me suis trompée, j'aurais voulu faire autrement, mon intention, c'était... de prendre soin de toi, et maintenant je vais changer parce que je comprends mieux et que je vois l'impact que ça a eu. » Donc je pense qu'à partir du moment où on a accès à une remise en question, on peut soigner des choses.
Ouais,
et
ouais.
Même si déjà, avant même qu'elles aient des enfants ou quand ils sont jeunes, elles arrivent à se remettre en question sur ces choses-là, moi je pense que c'est OK en fait, ça va bien se passer.
Ouais, non, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que déjà, rien que soi-même se dire « Ah, j'ai pas envie de transmettre ça, du coup je vais veiller à pas le faire » et de toute manière, peut-être que en guérissant aussi de son TCA ou même en étant dans ce processus-là, de soi-même consciemment savoir un peu les mécanismes aussi, etc., savoir l'environnement qui crée ça aussi, je pense que rien que ça, ça peut aider et ne pas avoir forcément une influence sur nos enfants, tu vois, mais ou soit une influence plus saine dans le sens faire un environnement pas grossophobe ou faire gaffe aussi à comment on va parler de l'alimentation, etc., etc., quoi.
Et de se permettre, parce que, bon... Nous, on essaie de créer un environnement pas grossophobe pour nos enfants, ou en tout cas pour les générations futures. Mais ça n'empêche qu'on est quand même fort à contre-courant par rapport au reste du monde.
C'est clair.
Et donc, de pouvoir quand même créer un espace dans ta famille, ou en tout cas de pouvoir créer des espaces où on peut critiquer la grossophobie, où on peut la remarquer, l'observer, mettre des mots dessus, dire qu'on n'est pas d'accord, enfin, accompagner en fait les jeunes à se poser les questions et à pas juste le prendre comme une évidence. Je pense que ça, c'est hyper important. Et pouvoir parfois dire, enfin, moi, j'ai une amie un jour que j'adore, qui d'ailleurs a été une des premières à commencer à m'aider dans tout mon processus de soins, de mon rapport au corps et à l'alimentation. Et donc, elle est très attentive à ça. Mais c'est, comment dire, c'est pernicieux, tu vois. Allez, ça se met dans des endroits où tu t'attends pas, quoi, la grossophobie et c'est ce vrai. Genre de choses. Et donc, c'était l'anniversaire de sa fille, ce genre premier anniversaire, tu vois. Et donc, elle avait fait un gâteau sans sucre, enfin, parce que le bébé avait un an, quoi. Et donc, sa fille aimait bien manger son petit truc, là, son petit gâteau. Et à un moment, je l'entends dire, « Bon, tu en veux encore ? Ok, parce que c'est ton anniversaire.
Mmh. »
Tu vois, elle est hyper consciente. Elle est hyper au taquet, elle se remet beaucoup en question par rapport à ça. Mais je lui ai dit, « Mais pourquoi ? Enfin, si c'était pas son anniversaire, elle pourrait pas en manger. » Et elle me fait, « Ah, putain, t'as raison. »
Aha.
Parce que, tu vois, de nouveau, c'est ce que je te disais. C'est une règle extérieure. C'est parce que c'est ton anniversaire. Parce que oui, apprendre à tes enfants à être connectés à leur sensation de faim, comme n'importe quel autre jour de l'année, parce que je la vois, autre jour de l'année, elle lui aurait dit un truc du style, ah, t'as encore faim? Je suis étonnée que t'aies encore faim. D'habitude, tu manges moins. Ou, tu vois, elle aurait accompagné la petite à se connecter à ses sensations corporelles. Ce jour-là, comme c'est l'anniversaire, paf, tu pars sur un autre truc qui est extérieur au corps. C'est pas ça qui va troubler les rapports de sa fille à l'alimentation, c'est le fait qu'elle puisse se dire « Ah ouais, tiens, ça, j'avais pas remarqué, tu vois. Eh ben, je vais recalibrer. » Et c'est OK. Il va y avoir des choses comme ça que tes clientes, que mes patientes, que les auditrices vont faire, ou auditeurs, avec leurs enfants. Mais c'est pas grave, en fait. Du moment qu'il y a un moment, parce qu'il y en a plein qui nous passent au-dessus de la tête, mais qu'il y a un moment où on se dit, bah, en fait, quand je fais ça, je suis pas alignée du tout avec ce que je fais. Mmh. Ou quand je fais ça, je suis pas du tout alignée non plus. Et là, on parle de l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qui est rapport au sport.
Ouais, en fait, on a notre propre un peu radar aussi à ce genre de choses. Et tant qu'on reste un peu dans cette remise en question et ce côté, veiller au final à ça, voir cet environnement-là.
Mmh. Et après, les parents, ils font ça avec tout, hein. Pas juste avec la nourriture. Je pense qu'une fois que t'es en train d'élever tes gosses,
c'est clair.
À mon avis, tu penses à plein de choses.
Et du coup, comment on fait, selon toi, quand on est dans un environnement qui n'est pas sain pour nous, par exemple, qu'on est dans une famille qui a été très grossophobe, ou que, tu vois, peut-être on a pris du recul et on s'est rendu compte qu'elle était grossophobe, ou ce genre de choses. Comment on fait un peu pour prendre du recul par rapport à cette influence-là, nous-mêmes, et pas trop fusionner, on va dire, avec ce que la famille pense, etc.
Mais ça, c'est un processus par lequel on va tous passer, peu importe le thème. Ici, c'est le thème de la nourriture, ou du rapport au corps, mais c'est un truc, comme je te disais, il y a un moment, il faut tous qu'on le fasse, ce travail de qu'est-ce que je laisse à mes parents, qu'est-ce que je garde, et comment je le garde, qu'est-ce que j'en fais. Bon, bien sûr, moi, j'encourage la thérapie, parce que c'est un lieu où on fait beaucoup ça. Si on n'a pas envie d'aller en thérapie, ou qu'on a envie de faire plus aussi de son côté, déjà observer, un peu, je pense que ce que tu conseilles aussi, observer déjà les pensées, les croyances qui apparaissent. Quand je les observe, je les note. Je trouve que c'est vraiment bien de les noter, soit sur un papier, soit dans le téléphone.
Ouais, je suis d'accord.
Pour déjà qu'on ait prise, en fait, dessus, parce que les pensées, c'est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps. Ça passe. Et donc, on l'a eu, on l'a réprimé, ou elle nous a envahi pendant un moment, on l'a ruminé, et puis elle est passée. Et en fait, on n'a pas eu prise dessus. Vraiment. Et donc, les croyances, les pensées, ou même les comportements, de pouvoir les noter et de pouvoir se dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous essayez même de le changer, juste de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? J'investigue avec, j'observe avec curiosité, tu vois, je m'observe moi-même avec curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai pensé ça? Peut-être d'où est-ce que ça me vient? Mais c'est pas évident dans un premier temps, parce que là, j'en parle, on dirait que c'est super facile. C'est pas facile.
Oui, c'est clair. C'est
pas facile parce qu'on n'est pas du tout habitué à avoir de la bienveillance pour nous-mêmes. On est vraiment entraîné à être très jugeant par rapport à soi-même, très critique, surtout quand on est une femme. Je viens quand même le souligner. Et donc, c'est tout un travail de pouvoir s'observer en bienveillance sans essayer de changer les choses. Et je crois que plus on arrivera à observer avec curiosité et bienveillance, plus on va aller vers du choix et de la prise sur nos pensées. Et donc, en fait, faut pas oublier que notre cerveau nous propose plein de pensées avec lesquelles on n'est pas obligé d'être d'accord.
Exactement. Ouais, ça, je le dis souvent aussi, ouais.
Ça, c'est quand même fondamental. Internaliser plein de choses, on a intégré plein de choses avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord. Moi, j'aime beaucoup échanger avec ces petites voix, avec les voix critiques. Un travail que j'ai fait, qui, je suis justement l'amie dont je te parlais, c'est elle qui m'a parlé de ça au tout début. Et donc, en gros, petit à petit, de donner une forme à cette petite voix critique que j'avais dans la tête, qui passait son temps à critiquer, pas que la nourriture et le corps, même si ça, elle avait de quoi faire, elle est très horrible, elle est très inventive là-dessus, elle se lassait pas. Mais petit à petit, de quelque part lui donner une forme et de pouvoir l'observer, et donc de pouvoir aussi lui répondre et de dire « j'entends, je suis pas d'accord ». Et petit à petit, ça c'est un travail que je fais beaucoup en thérapie avec mes patients, c'est de pouvoir dire « ok, en fait, tu vois les parts de toi, les petites voix qu'on a plus ou moins tous ».
Ouais, carrément.
Ma pote m'a dit que j'avais une petite voix dans ma tête, je lui ai dit « mais non, pas du tout ». Et puis après, j'ai commencé à observer, j'ai fait « ah, mais je vois ce qu'elle veut dire ». Petites voix qu'on a comme ça, qui sont très critiques, en fait, moi j'ai du mal à croire qu'elles sont contre nous, tu vois, j'ai du mal à croire qu'elles sont contre moi. Mon hypothèse, c'est que j'ai internalisé une manière violente de prendre soin de moi. Et donc, je me dis toujours « ok, c'est quoi le sous-titre, en fait ? C'est quoi que cette petite voix, elle veut me dire ?» Et donc, par exemple, autour de la nourriture et du corps, pour moi, c'était très fort, parce que j'ai été fortement harcelée quand j'étais à l'école. Et donc, je pense que cette petite voix, elle est née, entre guillemets, à cette période-là. Ce qu'elle essayait de me dire, c'est « si t'es trop grosse, si tu fais pas telle taille, en fait, tu vas être rejetée, tu vas être mise à l'écart. » Et donc, ne le fais pas, quoi. Essaye de pas grossir, essaye de rester à une certaine taille pour être intégrée. Et donc, en fait, elle voulait mon bien. Tu vois, c'est super important de pouvoir, petit à petit, faire ce switch, de réaliser que les parts qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont hyper violentes, en fait, elles veulent notre bien.
Ouais, elle va nous protéger.
Faut pouvoir traduire, en fait, ce qu'elle essaie de nous dire. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu vois que, en fait, on fait équipe. Et donc, quand j'ai ma petite voix qui commence à me dire, ça va pas du tout, tu fais pas telle taille ou je sais pas quoi, bah, je peux lui dire, ok, j'entends. Et je te remercie parce que tu essayes de prendre soin de moi. Mais oui, aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça comme ça. Donc t'inquiète, en fait, je vais prendre soin de moi, mais d'une autre forme, sous une autre manière.
Exactement, ouais. Ouais, bah nous, c'est ce qu'on... Enfin, tu vois, en alimentation intuitive, c'est toujours le côté de transformer un peu ces voix, comme tu dis, un peu violentes, destructrices d'une certaine manière, enfin, critiques, etc., en voix alliées, on appelle ça.
Exactement, c'est une équipière.
Exactement, voilà. Ouais, puis de voir qui s'exprime aussi, des fois, c'est des voix aussi qui sont en nous, mais qui sont pas à nous. Genre, tu vois, la voix de la grand-mère qui te dit ça, bah peut-être tu l'as internalisée, ou la voix de ta mère qui te dit ça, etc.
Ah ouais, il y a des moments où tu te dis, mais en fait, tu fais un truc, t'es là, mais en fait, c'est pas moi. C'est juste un truc que j'ai appris d'ailleurs, mais c'est pas moi du tout.
Ouais, c'est ça, t'as dupliqué un peu cette voix, tu l'as mis un peu en toi, dans ton système, dans ton programme, quoi, on va dire. Et du coup, c'est intéressant de l'observer déjà dans un premier temps, et puis de voir, voilà, comment la transformer d'une certaine manière, ou du moins, voilà, ne pas forcément la croire sur parole, etc. Et j'aimerais te poser aussi cette question-là de, bah, comment tu fais quand, justement, t'es dans... Voilà, dans ta famille, et que tes proches, ils te... Donc toi, par exemple, t'es dans une démarche un peu d'alimentation intuitive, etc., ce genre de choses, et tu veux plus qu'on commente ton corps ou qu'on te fasse des remarques sur l'alimentation, ce genre de choses. Comment on peut faire pour tenter, du moins, de mettre des limites par rapport aux proches, et voilà, de leur dire, eh ben, les pattes, c'est mon domaine.
Grande question, hein.
Ouais, grande question.
Mais je crois qu'avant tout, faut pas oublier que c'est un processus, et que ça met du temps.
Ouais.
Ça va prendre du temps parce que ça implique un changement dans la dynamique familiale habituelle. Une famille, c'est un système avec des membres dans ce système et les systèmes n'aiment pas le changement, que ce soit la famille, le couple, le travail. Donc, on va toujours essayer de garder ce qu'on appelle une homéostasie, un truc qui bouge pas trop. Et donc là, ça va faire que, bah, en fait, on va essayer d'amener un changement. Et donc, on risque d'avoir souvent ce qu'on appelle de la rétroaction négative. Ça veut dire que le système va essayer de refaire comme avant. C'est OK, ça fait partie du processus. Mais il y a un moment où ce système, ben, si on continue à lui donner l'opportunité, on peut espérer qu'à un moment, il va quand même changer et trouver une nouvelle homéostasie dans laquelle on sera probablement plus confortable. Faut se dire que ça prend du temps, ces choses-là. C'est pas des choses qui se font du jour au lendemain.
Ouais.
Faut pas espérer que le jour où vous dites à votre maman ou à votre tante d'arrêter de commenter votre corps, même si elle est bien intentionnée, quelque part c'est très humain qu'elle se plante et que la fois d'après elle le dise quand même.
Ouais, bah oui.
Pas nécessairement qu'elle est méchante ou quoi. Enfin, parfois c'est juste que voilà, il faut le temps de prendre des nouvelles habitudes. Donc ça c'est super important, mais je crois qu'il faut vraiment commencer par des petites choses en fait. D'ailleurs, quels que soient les changements qu'on veut intégrer dans nos vies, il faut commencer petit souvent.
Ouais, toujours,
c'est sûr que ça s'instaure sur le long terme. Et donc, des choses qui vous semblent accessibles, quoi, des choses qui paraissent accessibles pour vous. Alors, moi, je sais pas ce qui est accessible pour l'un ou pour l'autre, mais par exemple, moi, je me souviendrai toujours. Tu sais, on est genre à Noël dans ma famille, un truc comme ça, genre aux alentours de Noël. Et donc, à Noël, t'as souvent des boîtes de chocolat un peu spéciales, quoi.
Ouais.
Et donc là, c'était du Côte d'Or. Je sais pas si vous avez ça en France.
Oui, oui, mais... on a, ouais.
En Belgique, c'est quand même très, très chouette. Et donc, c'est une boîte avec plein de Côtes d'Or différents, tu vois. Et donc, je regarde la boîte et je vois... En fait, j'étais en train de me dire, tiens, est-ce qu'il y en a un que j'ai jamais goûté? Et donc, je les regarde tous et je les sors un peu tous comme ça. Et là, à un moment, j'en sors un chocolat noir. Et là, ma mère, elle me dit, « Ah, celui-là, tu peux le manger. » Et je la regarde et je fais, « Bah quoi, les autres, tu peux pas les manger, en fait ?» Et tu vois, c'est un petit truc qui, à ce moment-là, me paraissait accessible. Et donc là, elle me fait, « Ah, mais non, bien sûr que tu peux tous les manger. » Enfin, et donc, à ce moment-là, de faire un petit stop...
Ouais.
Bon, en plus, là, c'était avec humour, parce que je trouvais ça trop drôle qu'elle me donne le paquet de chocolat et puis elle me dit, celui-là, tu peux le manger, mais sous-entendu, les autres non, tu vois.
Ouais.
Alors que je sais bien que c'est pas du tout ce qu'elle pense, mais en fait, ça parlait de ses croyances à elle, à ce moment-là.
Mm-hmm.
En fait, ça parlait pas de moi, ça parlait d'elle et de son rapport à elle, ses chocolats et toutes les règles qu'elle avait intégrées. Et donc, des petites choses, quoi, au début. Je pense qu'il faut pas nécessairement aller au fond.
Carrément.
De tester, d'expérimenter, de sentir. Tu tentes une fois, tu vois que ça passe pas. Tu tentes à un autre endroit, tu vois que ça passe un peu mieux.
Un ton différent, une formulation différente.
Et les gens, souvent, vont quand même être étonnés, en fait, parce que pour eux, ils partent d'une bonne intention. Et donc, quand tu leur dis stop, ils sont là, genre, mais pourquoi ? Enfin, moi, je...
Oui, oui, genre, t'inquiète, enfin ouais, t'es expert. Enfin,
de pouvoir peut-être leur mettre du sens aussi, mais ça dépend des gens. Je pense que on dit que ce qu'on veut dire. Moi, j'ai quand même fait le travail de dire, écoutez, vous avez fait tout le boulot que vous pouviez à mes parents. Vous m'avez donné beaucoup de choses, mais là, je suis grande maintenant et je vais soigner ça comme moi je sens qu'il faut que je le soigne. Et pour ce processus-là, j'ai besoin que vous ne fassiez plus de commentaires. Mmh. Je sais que ça part d'une bonne intention. En fait, à chaque fois, ça vient me trigger, ça vient me réveiller des choses qui sont pas chouettes. Et donc, voilà, je pense que ça n'a pas nécessairement été évident, mais ils ont pu le respecter. Donc ça, c'est aussi que vous pouvez faire que la moitié du chemin. Mmh. On peut exprimer les choses. Si les gens ne sont pas capables de l'entendre, on ne sait pas changer les gens.
C'est clair. Ouais, ça, je dis souvent aussi. Hein.
Et donc, qu'est-ce que je fais quand je suis face à quelqu'un qui ne sait pas l'entendre? Est-ce que j'essaie de faire avec? Est-ce que j'arrête de la voir, cette personne? Enfin, ça, c'est des questions qu'on peut se poser aussi. Mais... Et alors, une autre chose que je pense qui est importante quand on met ses limites, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une limite, c'est une zone. Ce n'est pas une frontière, c'est pas une ligne. C'est une zone où on atteint de plus en plus l'extrémité de la zone et donc de peut-être pouvoir sentir, tiens, là je sens que dans ce contexte-ci, avec cette personne-ci, à ce moment-ci, c'est ok, mais dans ce contexte-là, ça va pas. Et donc de pouvoir sentir la limite, vraiment comme cette zone où... Petit à petit, on est en train de passer au rouge, quoi. Mais peut-être que dans ce contexte-là, orange, ça passe encore.
Ouais, un peu tâter le terrain aussi, d'une certaine manière, quoi, aussi, dans bah, nous, tout ce qu'on peut encaisser. Et aussi par rapport aux autres, comment ils réagissent, etc. Voir si eux aussi ça empiète sur leur domaine. Fin. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent, tu vois, ce côté, comment faire quand nos proches nous font des remarques, etc. Comment mettre des limites, parce que je ressens ce côté-là que beaucoup de gens se sentent démunis par rapport à leur famille, qui leur font des remarques, etc. Et je suis d'accord avec toi que le fait même d'expliquer la démarche dans laquelle on est, etc. Je pense que la plupart des familles, et j'espère en tout cas, seront, bah voilà, si elles veulent votre bien, tout ça, si vous leur expliquez que ce que vous faites c'est dans votre bien et que voilà, que c'est pour votre bien et que ça vous aide de pas faire ce genre de commentaires, etc. Je pense que voilà, la plupart sont prêts à l'entendre, mais encore une fois, c'est difficile.
Et parfois, je pense avoir des alliés dans ta famille, tu vois.
Ouais.
Moi, je me dis.
Des personnes ressources, un peu, moi j'appelle
oui, c'est ça.
Ça.
Il y a pas si longtemps, on avait fait un grand repas de famille.
Ouais.
Et j'étais assise à côté de mon père, et en fait, il commence à parler régime. Mais je trouve, quand t'as vécu des TCA, de manière trash. Bon, eux, ça leur paraissait absolument anodin et banal. Ouais. Et donc, en fait, je sens, même si je considère que je suis soignée depuis quand même quelques temps, mais tu sens, le trigger, il est là, quoi. C'est dur. Et donc, je sens comme ça que ça monte chez moi, et je me dis, en fait, j'arrive pas du tout à supporter ça. Et donc, je chuchote un peu à mon père, je dis, papa, il va falloir changer de sujet, parce que ça va pas le faire, en fait.
Oui.
Et mon père, il a... juste changer de sujet, tu vois, il a juste fait, ah, tiens, vous faites, machin. Et c'est bon, on était parti sur autre chose, donc j'avais pas besoin de dire à des tantes que je vois jamais, est-ce qu'on peut changer de sujet parce que ça me met mal à l'aise pour, parce que
j'ai un bachelor. Ouais, tu peux très bien passer le mot à quelqu'un.
Je pense que c'est quand même pas mal d'avoir comme ça des alliés où souvent les frères et sœurs, c'est un peu plus accessible aussi.
Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que ce qui peut être toujours intéressant, c'est de dire ce genre de choses, de nous-mêmes, si on peut changer de sujet aussi, si on y arrive, si on veut pas forcément le dire. Et puis après, c'est intéressant aussi d'observer quand ça monte chez nous, tu vois, aussi. Enfin, c'est toujours hyper intéressant. Moi, je sais qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément l'alimentation, mais ça peut être des sujets un peu plus au féminisme ou à la condition des femmes, tu vois. Moi, ce genre de truc, bah, c'est trigger pour moi, parce qu'en fait, quand je sens que ce n'est pas dans mon sens, entre guillemets, à moi, des choses que voilà, je ne suis pas d'accord, etc., je sens que moi, ça monte assez vite sur ces sujets, tu vois. Et je sais que voilà, c'est quelque chose, ça me tient à cœur, et donc j'accepte aussi d'être un peu vite trigger sur ces trucs-là, d'une certaine façon. Et voilà, quoi.
Après, on peut toujours dire que le fait de faire de l'humour, c'est pas mal.
Ouais.
Ça permet de décaler tout en disant les choses.
Oui, c'est ça. C'est pas obligé d'être cinglant, en fait, des fois. Enfin, je trouve. Parce que des fois, on se dit, OK, mettre des limites, il faut que j'engueule les gens. Alors que tu dis, bah non, mais en fait, tu peux très bien dire tes limites d'une certaine manière, une manière aussi un peu pédagogue, d'expliquer, ou même de l'humour, ou de l'absurde, ou de. Enfin, il y a tellement de façons. Et ça, à nous-mêmes de voir comment faire passer le message, mais aussi de voir ce que les autres de notre. Enfin, nos autres membres de notre famille, à quoi ils sont réceptifs. Et à quoi ils sont, tu vois, qu'est-ce qui leur parle aussi, quoi.
Mais quand je t'entends parler, je me dis, il y a quand même un truc super important qu'il ne faut pas oublier et qu'on nous fait oublier en tant que femme. Et là, pour le coup, je maintiens que c'est vraiment, surtout quand on est éduqué comme une femme. Quand on est éduqué comme une femme, on nous apprend à prendre sur nous et à faire en sorte de ne pas exister, de ne pas prendre trop de place, de ne pas s'affirmer.
De jamais se mettre en colère, ce genre de choses.
De nier ses besoins, de nier ses limites. Mais il ne faut pas oublier... que exprimer ses limites dans la relation, c'est prendre soin de la relation. C'est pas la mettre à mal.
Ouais.
Et si la personne en face ne sait pas entendre ma limite, ne sait pas entendre mon non, l'autre qui est en train de mettre à mal la relation.
Ouais.
Alors, ça ne veut pas dire que on arrive toujours à être à trouver parfaitement le compromis, etc. Souvent, il faut qu'on se dise, ok, alors comment on fait avec cette limite, avec ta limite et puis la mienne, peut-être qui se contredisent ou des trucs comme ça. Comment est-ce qu'on fait avec ça? Mais il faut que l'autre puisse entendre. Et ça, c'est vraiment super important pour moi dans la question des limites. C'est que quand je pose une limite dans une relation, je suis en train de prendre soin de la relation. Parce qu'on nous a appris l'inverse. Hein. On nous a appris que si je disais non, que si je m'écrasais pas, j'allais mettre à mal la relation. Mais c'est faux.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mmh. Ouais, ce côté un peu, si tu dis rien, c'est bien. Et si tu dis quelque chose, c'est forcément mettre à mal. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai aussi une autre question pour toi par rapport à mettre des limites, etc. Moi, c'est quelque chose aussi qui revient souvent dans mon audience, etc., dans ma communauté, dit souvent, moi je suis dans le process d'alimentation intuitive, mais les gens de ma famille, ils comprennent pas, mais genre ils comprennent pas, et limite je leur explique que c'est scientifique ou même des trucs liés à la culture des régimes, tu sais, au régime, etc., quand t'expliques de manière scientifique prouvée, etc., tu peux avoir des gens de ta famille qui sont soit critiques ou qui vont pas entendre ce que tu dis ou qui vont réagir un peu de manière hostile, on va dire. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes de ma communauté qui ont du mal avec ça, en fait. Du côté, j'ai beau présenter des preuves, etc., ma famille n'entend rien et limite se fout de ma gueule, enfin, un petit peu, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à cette préoccupation?
Évidemment, c'est toujours du cas par cas, comme toujours en psycho, donc c'est pas nécessairement évident. Maintenant, si je dis ça à tes auditrices, elles vont être là genre, ok, merci.
Ouais, c'est ça. Oui. Après, là, bien sûr, on donne des conseils, c'est chacun prend ce qu'il veut et adapte, mais...
C'est pas évident, parce que, de nouveau, je pense qu'il faut pas oublier qu'on fait toujours que la moitié du chemin, et on peut faire que la moitié du chemin. Si moi, je suis au clair que j'ai envie de partager mon nouveau processus avec des membres de ma famille, parce qu'ils sont importants pour moi, parce que... j'ai envie qu'ils comprennent ce dans quoi je suis ou juste pour qu'ils me laissent tranquille, peu importe, mais qu'eux n'arrivent pas à l'entendre. Il y a un moment, j'ai beau essayer, si eux n'arrivent pas à faire leur part du chemin vers moi, je peux pas les changer. Donc ça, c'est une chose quand même super importante. Et je pense qu'on n'a pas toujours besoin de se justifier, en fait. Je veux dire, on a le droit de faire ce qu'on sent qui est bon pour nous sans nécessairement avoir besoin de sortir 15 articles scientifiques qui disent que ça soutient ce qu'on pense. Enfin, il y a un moment, les gens, faites-moi juste confiance. Je sens que c'est bon pour mon corps, je sens que c'est bon pour ma tête. Est-ce que ça vous suffit pas?
Ouais. Ou même par rapport, pas forcément par rapport à soi, tu vois, mais genre tu vas présenter l'alimentation intuitive ou du moins les méfaits de la culture des régimes, mais d'une manière un peu peut-être militante dans ta famille. Du coup, ça peut.
C'est hyper contre-intuitif, je sais pas, parce que je pense que justement, si les gens avaient plus accès à leur intuition, ils le sentiraient. C'est à contre-courant ce que tout le reste de la société nous dit. Et donc, je pense que c'est dur pour les gens d'entendre ça aussi. Parce que quand on parle d'alimentation intuitive à la plupart des gens, en fait, on vient les confronter, les ébranler sur leurs croyances, sur leur manière de fonctionner, sur ce qui fonctionne pour eux, ou ce qui fonctionne pas mais qu'ils veulent pas voir. Plutôt confrontant, faut pas oublier ça.
C'est vrai.
Petit à petit, on est dedans, ça nous parle, ça nous apaise, mais il y a des gens pour qui ça fait des tremblements parfois. Et donc, comme n'importe quel être humain, ils se protègent, comme beaucoup d'êtres humains, ils se remettent pas trop en question. Et donc, peut-être de se rappeler que la majorité du temps, quand les gens ont une réaction par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à nos croyances, en fait, ça parle plus d'eux que de nous.
Ouais, voilà, c'est plus par rapport à eux que, pas personnel par rapport à nous-mêmes, en fait.
On fait miroir aux gens la plupart du temps. Les gens nous font miroir, c'est dans les deux sens. De pouvoir se dire, moi j'ai eu envie de partager, mais je vois bien que ça passe pas, c'est pas grave, on n'a pas besoin de tout justifier, et peut-être qu'à un moment ça va finalement faire tilt et qu'il reviendra, mais...
Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que, tu vois, moi pendant longtemps, notamment quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, la culture des régimes, etc., quand il y avait des discussions autour de ça, tu vois, j'avais l'impression que, genre, j'avais un devoir de... évangéliser sur ça, tu vois, un petit peu. Et en fait, c'est bête, mais plus j'avance et moins j'interviens, en fait, des fois. Alors pourtant, c'est ma spécialité, on va dire, tu vois, mon expertise et tout. Mais en fait, je me dis, mais je cherche pas à rallier les gens, en fait. Enfin, comme tu dis, il faut être deux. Toi, tu fais la partie du chemin, les autres aussi. En fait, quand je sens que je vais même pas faire un pas dans leur direction parce que, je vais me prendre un mur, j'en sais rien. Franchement, je me dis, bon, tant pis. Enfin, après, je peux semer des graines d'une certaine manière, mais... Tu vois, c'est pas défaitiste, mais c'est un peu... moi aussi, je me préserve d'une certaine façon aussi.
Et c'est comme
tu dis, c'est aussi OK. Une relation, c'est comme ça aussi. Et en même temps, bah ouais, c'est pas grave si les gens ils pensent différemment de toi, et si les gens ils veulent continuer à te, bah comme tu dis, en plus comme ça fait miroir et que peut-être t'as raison, parler de tout ça, peut-être ça éveille des choses chez les gens et peut-être ils les avoueront même pas en fait, peut-être ils vont rester en mode non non c'est nul ton truc, mais peut-être qu'ils vont se dire peut-être que moi j'ai ça ou j'en sais rien, ils vont voilà, peut-être ça va leur peut-être remettre en question quand ils seront chez eux, j'en sais rien,
on espère pour eux,
mais ouais, mais dans tous les cas voilà, moi je cherche plus forcément à me battre des moulins on va dire, et à tu vois mais toujours chercher
Mais quand je t'entends, je me dis, est-ce que c'est pas parce que tu fais ton évangélisation ailleurs?
Ouais, bah après, tu vois, en fait, c'est marrant, hein, parce que, bah même par rapport à la critique, tu vois, par rapport à l'alimentation intuitive, en fait, moi, je suis tellement dedans que c'est pas que j'entends pas les critiques, etc. Mais en soi, je pense que je suis plus dans ma position. Et du coup, je suis moins... tu vois ce que je veux dire ou pas?
Oui, c'est ça. Quand t'es plus ancré, que t'es plus sûr de toi, que tu tiens, ouais, en fait, de l'intérieur. Moi, je dis toujours, on tient de l'intérieur. T'as plus besoin d'une espèce de corset qui te tient de l'extérieur, comme ça, genre tes articles scientifiques.
Ouais, j'ai pas besoin de validation, en fait.
Moi, qui viens de l'extérieur comme ça, mais il y a un truc qui tient dedans, parce que maintenant, t'as confiance en toi, tu y crois, tu sais que c'est juste et tout. Bah, du coup, t'as moins besoin de te justifier, et puis tu sens beaucoup plus vite où est-ce que c'est pertinent, où est-ce que ça a du sens de peut-être défendre ton point de vue, et où est-ce qu'en fait, c'est juste de la perte d'énergie.
Ouais,
tu pourrais,
exactement.
Comme dans ton podcast. Ouais. Mais ça, c'est important parce que t'as pas nié ton besoin. Enfin, excuse-moi, je suis pas en train de faire ton analyse.
Non, non, mais vas-y, sinon.
C'est intéressant, en tout cas, ce qui me vient quand je t'entends, c'est que t'as pas nié ton besoin de parler et de populariser et de défendre cette thérapie qui te tient à cœur. Mm-hmm. Tu l'as pas nié, tu l'as juste canalisé à un endroit où ça peut porter ses fruits au lieu de te fatiguer dans des endroits où ça sert à rien, en fait, tu perds ton énergie.
Et, ouais, c'est ça. En fait, tu vois, tu sens, de toute façon, de toute manière, les gens avec qui il y a moyen ou qui sont réceptifs ou ce genre de choses. Et puis aussi les gens à qui ça va parler, les gens qui ont besoin aussi, tu vois, je pense qu'il y a des gens, bah voilà, s'en fichent un peu de ce genre de sujet et juste titre comme ils veulent en fait, mais voilà. Après c'est clair que t'as peut-être raison, le côté comme j'ai tous ce média aussi etc, je me dis ben quelqu'un qui est intéressé à la rigueur il écoute, il s'intéresse, il creuse, il regarde, il lit etc, et puis voilà, j'ai fait ma part du boulot d'une certaine manière quoi.
Mais ouais, moi j'ai ça en thérapie, ça par contre c'est quand même des trucs qui me font un peu mal au cœur, mais de nouveau voilà, il y a un moment faut respecter les choix des gens.
Ouais.
Quand je vois des personnes qui continuent à rester dans la culture des régimes, qui continuent à se piquer avec des médicaments, être violents avec leur corps et à se retenir de manger, enfin c'est quand même une souffrance, hein, c'est terrible. Hein. Qu'on le conscientise à quel point c'est une vraie souffrance physique et psychologique d'être dans cette culture du régime, mais que c'est des gens à qui j'ai beau parler l'alimentation intuitive, j'ai beau leur dire les études, j'ai beau leur expliquer, ils veulent pas, ils restent sur leur truc et ils veulent quand même continuer à essayer comme ça de... Bah, 99% du temps, c'est perdre du poids. Bah, il y a un moment, il faut lâcher, il faut être là où la personne est, et c'est tout. C'est là où je l'accompagnerai au mieux. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est quand même dur, parce que je peux pas m'empêcher d'avoir un moment, tu sais, de garder espoir qu'à un moment...
Oui, bien sûr.
Ils viendront du côté clair de la force.
Oui, oui, c'est clair. Mais en plus, surtout quand toi, c'était des valeurs et un côté un peu militant, on va dire, à l'approche, tout ça, même pour toi. Enfin, forcément, ouais, après, bien sûr, t'as raison de ce côté, bah, de respecter les choses, au final. Voilà, tu peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, etc. Ça vaut pour la famille, en fait. Je pense que, à un moment donné, bah, voilà, si les gens de votre famille sont fermés, ben, voilà, pire, vous aurez fait ce que vous pouvez, et puis c'est tout, ça sert à rien de gâcher trop d'énergie et de ruminer, etc. Voilà. Pire, ce sera des sujets que vous n'aborderez plus. Puis c'est
ça, c'est des choses que tu peux déposer. J'avais une prof qui disait, tu déposes sur la table. Au milieu. Et puis les gens, ils prennent s'ils veulent. Tu vois, on n'est pas obligé de les gaver non plus avec nos trucs.
Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Et puis s'ils veulent se renseigner...
Bon, on ne supporterait pas qu'on nous force, hein.
Ouais.
On supporterait dans
C'est ça. Ouais, ça vaut pour tout sujet, en fait. C'est un peu se résigner, mais je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Et puis au pire, on serre les dents, et puis voilà. C'est genre de mots.
Ouais, un autre conseil que je voudrais quand même donner, c'est que...
Bah tiens, pour le mot de la fin, justement, je voulais te demander si t'as pas un dernier conseil.
Ouais, par rapport aux familles, je pense que ça reste important de remercier notre famille.
Surtout que là, ça va être Noël, tout ça, enfin...
Ouais.
Symbolique.
Tu vois, de les remercier dans le sens de « Merci maman, merci papa, t'as essayé de me transmettre ce que tu pensais être bon pour moi. Je te remercie pour ça. » Enfin, tu sais, pour le processus, pour l'intention.
Ouais.
Mais maintenant, je suis grande. Et maintenant, je fais mes propres choix. Voilà. Et je fais aussi, prends mes risques. Et si je fais des erreurs, bah, en fait, ça m'appartient.
Carrément.
Tu vois, tu m'as tout donné. Maintenant, tu peux me laisser essayer. Et Et ça, je pense que c'est important. C'est aussi un moment où, entre guillemets, on devient adulte, mais on peut devenir... Enfin, c'est quelque chose qu'on peut trouver à 40, à 50, à 60 ans, hein, par rapport à nos parents.
C'est vrai.
Sondage, hein, mm-hmm. que c'est un moment où le parent peut aussi entendre qu'on est une personne à part entière et on fait nos propres choix et on prend nos propres risques. Et si je me plante, ben je me plante, mais t'as fait tout ce que tu pouvais. Et donc, ouais, de remercier, je pense que c'est quand même important.
De toute manière, voilà, nous, on fait nos propres choix en tant qu'adultes et on prend les leçons qu'on prend. Et puis voilà, je pense que c'est aussi, même un parent qui veille par rapport à ses enfants, bah, c'est aussi de les laisser aller de leurs propres ailes et puis, et puis d'être là, en fait, tout simplement.
Ouais, exactement.
Ça clôture sur une belle note. Merci beaucoup Nina pour cet échange qui était hyper intéressant.
Avec plaisir, dis, ça m'a fait trop plaisir, merci.
Super.
Merci beaucoup et merci pour tout ce que tu fais de manière générale. Je trouve que tu rends vraiment l'alimentation intuitive et très accessible et j'hésite jamais à donner ton podcast à mes patientes.
Ah bah merci. Donc,
merci à toi. Franchement.
Merci beaucoup. Au revoir.
Salut.
J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager. Et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, The Last Quiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!